Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, de retour dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Après une journée sans émission, vous l'entendez, mes sinus sont aussi bouchés que le ciel, mais on fait avec. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, grève dans les pharmacies en Bretagne jeudi 30 mai, une interview avec Adrien Leroux des Archives de Rennes qui va nous parler d'un podcast sur les petites mains des collectivités locales. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, le reportage d'Ambre, étudiante en stage, qui est allée dans une école du quartier Clonay où étaient accueillis de jeunes réfugiés d'un dispositif qui s'appelle CAP+, et puis la recommandation du jour, une rencontre littéraire et militante. Bienvenue dans l'Arène. Et c'est parti, on commence l'émission d'information locale comme toujours avec l'info du jour, une que j'ai choisie parmi d'autres dans l'actualité locale. Et aujourd'hui, c'est une annonce, histoire de s'organiser, celle d'un mouvement de grève qui va concerner 80% des pharmacies de la région. Une mobilisation qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement national annoncé par l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, et ça se passera donc demain, jeudi 30 mai. On lit sur le quotidien local Ouest-France que les revendications, elles sont nombreuses. Sur les rémunérations, les ruptures de stock, également sur l'absence d'avancée sur une réforme des études pharmaceutiques. L'UPSO, donc l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine qu'on vient de citer, elle insiste sur le sujet de la pénurie de certains médicaments. Je cite, les pharmaciens passent près de 12 heures par semaine en moyenne pour trouver des solutions alternatives. D'où la demande suivante, que le gouvernement accélère sa démarche pour renforcer la transparence des données et puis obliger les laboratoires à libérer les stocks de médicaments. Ce mercredi 29 mai, en prévision de la journée de grève, l'Agence régionale de santé publie une liste de pharmacies qui sont réquisitionnées. Elles n'assureront cependant que les besoins urgents. Les patients sont donc invités, dans la mesure du possible, à anticiper, voire à reporter leurs besoins. Et on rappelle qu'en cas d'urgence vitale ou de doute sur la gravité d'une situation, il faut composer le 15 pour une prise en charge, on l'espère, rapide. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une interview. Adrien Leroux, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chargé de médiation aux archives municipales de Rennes et on vous reçoit pour parler d'un podcast qui a été lancé il y a un petit moment maintenant par les archives. Rennes, j'écoute les voix du service public. Il faut expliquer qu'avant le podcast, le travail il avait déjà commencé sous une autre forme, une collecte qui a donc été lancée auprès du personnel de la ville mais aussi de la métropole en fait au moment du départ en retraite. C'était ça l'idée.
Effectivement, ouais. C'est un premier projet qui est une campagne de collecte de témoignages qu'on a lancé en 2015, du coup, si ma mémoire est bonne. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller rencontrer des agents du service public fraîchement retraités, qui ont été des acteurs de la mise en œuvre de politiques publiques, qui ont donc un impact sur la ville, sur la vie des Rennais, etc. Et l'idée, c'est d'aller recueillir leurs paroles pour venir, en fait, en complément, venir illustrer les autres types de documents qu'on va conserver plus classiquement aux archives, parce que nous, on est amené à collecter les documents de travail de ces services-là, des collectivités. Donc, en fait, on a lancé ce projet-là en 2015. Donc, on a collecté quelques témoignages. Donc, c'est une matière historique qui intègre nos fonds, qui est accessible aux chercheurs, qui peuvent venir nous voir aux archives. Et puis au bout d'un moment, on se dit qu'on a une matière qui serait intéressante à valoriser. Ce sont des documents qui sont un peu bruts à la base, c'est des témoignages qui durent plus de 2 heures en général. Et l'idée, ça va être de rendre ça plus accessible, plus grand public. Et on décide du coup, à ce moment-là, de créer une série de podcasts, qui est un média qui a le vent en poupe, qui fonctionne bien. On fait appel à un réalisateur de podcasts qui s'appelle Arnaud Vasmer. Et on lui demande de nous créer des épisodes en fait d'une vingtaine de minutes qui sont basés du coup sur ces témoignages oraux qu'on a collectés.
Il y en a eu 5 de publiés pour le moment, qu'on peut retrouver en ligne, le dernier publié au mois de mars. Alors il faut dire que ces agents des collectivités, donc là en l'occurrence une municipalité et une communauté de communes, ce sont pour beaucoup des noms qui sont inconnus du grand public. Vous l'aviez en tête ça, que c'était plutôt des anonymes, on garde plutôt le nom à la limite des maires et puis des élus
Effectivement, mais après nous c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Alors je complète juste en fait parce qu'il y a 3 collectivités, il y a la ville de Rennes effectivement, Rennes Métropole, il y a aussi le CCS, Centre communal d'action sociale qui est pris en compte. Alors ce sont des anonymes, ouais, oui, effectivement, après ce sont eux qui mettent en œuvre les politiques publiques, les décisions des élus, c'est eux qui sont aussi sur le terrain en fait, et qui vont être, comment dire, qui vont être les mains un peu dans le cambouis, on va dire ça comme
les chevilles ouvrières.
Exactement, les chevilles ouvrières, c'est exactement ça. Et puis du coup, l'idée, c'est justement aussi de mettre des voix sur des services, parce que nous, on collecte des documents de travail qui sont produits par des services qui sont parfois un petit peu impersonnels, et mettre une voix dessus, ça permet d'amener un petit peu d'identité, un regard individuel, etc. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous en fait, de ce point de vue.
On écoute, on va dire, l'identité sonore et puis le début du premier épisode en compagnie de Françoise Tyran qui a été publié en février 2022. Puis on revient tout de suite en studio.
Rennes, j'écoute les voix du service public. C'est le podcast des archives de Rennes dans lequel nous vous proposons de découvrir des témoignages de celles et ceux qui ont fait la ville.
On essayait de faire du lien entre la parole des victimes et de l'entourage de victimes et de faire qu'elles retrouvent un peu de la dignité en pouvant exprimer et que leur parole puisse servir à d'autres.
Dans cet épisode, nous vous proposons d'écouter Françoise Tyran qui a œuvré sur les questions d'insertion et d'aide à la population de 1986 à 2017. Son parcours à la ville de Rennes a été marqué par la création d'un service et les actions menées sur l'égalité femmes-hommes, les violences faites aux femmes, la santé, cela en faisant travailler ensemble différents acteurs rennais.
J'ai cherché un travail à plein temps et je suis arrivée dans les dispositifs d'insertion, c'était 86-87, un âge d'or où ils recrutaient facilement des personnes qui avaient justement une formation de psychologue, puisque c'était à la fois des conseils dans l'orientation. Et donc je me suis retrouvée à la mission locale de Vitré. Je suis arrivée juste après à Rennes. J'avais une méconnaissance vraiment de ce qu'était une mairie, un CCAS, voilà. C'était pas un projet de carrière, voilà, pour dire les choses autrement.
Donc, c'est intéressant ce qu'elle nous raconte, là, Françoise Tyran, donc dans le premier épisode de ce podcast Rennes, j'écoute les voix du service public. Elle nous le dit, ce n'était pas un projet de carrière pour elle d'arriver dans une collectivité. Peut-être vous demander comment sont choisis les sujets des différents épisodes du podcast. Il doit y en avoir beaucoup, des départs en retraite.
Il y en a beaucoup, ouais, effectivement. Donc, c'est des choix qui ne sont pas toujours simples. Donc là-dessus, déjà, c'est le choix des témoins dont on va collecter les témoignages qui est important. Là-dessus, on travaille avec nos collègues qui s'occupent de la collecte des archives publiques, qui en sont en relation directement avec les services, donc qui connaissent les agents et qui vont identifier les témoins potentiels. Il y en a beaucoup, donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en place des critères qui sont un peu objectifs. Déjà, on va aller solliciter des personnes qui ont un parcours qui est quand même assez long dans la collectivité ou les collectivités, des personnes qui ont un parcours aussi qui est assez significatif, révélateur, qu'ont porté des politiques publiques qui ont eu un impact direct sur les habitants, parce que l'idée c'est que ça parle aussi aux Rennais, forcément. On joue aussi l'alternance femmes-hommes, voilà, on va varier d'une fois sur l'autre. Et puis on essaye du coup de varier les sujets. Voilà, il y a tout un tas de compétences différentes qui sont portées par les collectivités. Et l'objectif, ça serait de réussir à documenter l'ensemble de ces collectivités. Donc là, on parle de Françoise Tyran, égalité femmes-hommes. On a été voir du côté des transports, de la culture, de l'innovation numérique. Voilà, tout un tas de sujets différents en fait.
On les cite, les sujets suivants après Françoise Tyran. Donc il y a eu Noël Philippe, ancien directeur général des services urbains au district de Rennes, puis à Rennes Métropole. Françoise Cotreau, ancienne responsable du service Habitat Social à la ville de Rennes, puis à Rennes Métropole. Jean-Paul Sillard, lui, ancien zootechnicien du côté de l'écomusée de la Bintinet. Puis on arrivera au dernier épisode qui a été publié au printemps. Les entretiens là, de collecte auprès de ces personnels donc à la retraite de la ville de Rennes Métropole et du CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Ils abordent différents pans des politiques publiques avec des illustrations très concrètes, qu'on soit dans le champ du numérique, de l'insertion ou encore de l'habitat. Comment est-ce qu'ils sont préparés ces entretiens puisqu'ils sont encore en cours et qu'ils peuvent encore... Il y en a d'autres qui vont avoir lieu.
Oui, le travail de préparation. Dire. En fait, à partir du moment où on a identifié le témoin, alors moi, c'est moi qui mène les entretiens et j'ai tout un travail en fait, de recherche dans nos fonds. L'idée, ça va être quand même de comprendre, de saisir un petit peu quels sont les enjeux des différentes missions, qu'est-ce qui a été mis en place par les agents, etc. Il y a une première rencontre avec eux où on va baliser un petit peu les grandes étapes de leur parcours. Et puis ensuite, il y a le moment de l'entretien où je construis une grille d'entretien. En fait, tout simplement, l'idée, c'est de faire des entretiens qui ne sont pas trop directifs non plus, de laisser au maximum la parole aux personnes, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui compte. Et puis, c'est de revenir sur les différentes politiques publiques qu'ils ont pu mettre en œuvre en amenant leur éclairage du coup personnel, quoi.
Alors heureusement qu'il y a la voix d'Arnaud Vasmer donc pendant les épisodes parfois pour détailler les sigles qui sont nombreux dans l'administration publique. Et puis ce qu'on retrouve aussi, ce sont des extraits d'archives alors qui peuvent être lus dans le podcast, mais aussi à découvrir visuellement quand on est sur le site des archives, archives.rennes.fr. Alors parfois des documents qu'on n'a pas l'habitude de voir, administratifs, qui font partie de vos fonds.
Qui font complètement partie de nos fonds et qui ressemblent à beaucoup, énormément d'archives qui sont conservées chez nous. Effectivement, dans les podcasts, l'idée, c'est d'entendre au maximum la parole des gens, mais on va chercher une quinzaine, une vingtaine de minutes sur les deux heures et demie que peuvent durer les entretiens. Ce propos-là, il est effectivement contextualisé, heureusement, par Arnaud Vasmer, qui amène du contexte, qui amène un peu de Lyon. Et effectivement, qui propose la lecture de documents d'archives qui sont liés aux propos du témoin. Et sur notre site internet, en plus de ça, il y a une petite plus-value, c'est vrai, parce qu'on met en ligne des galeries de documents d'archives. Donc c'est une sélection d'une dizaine, d'une quinzaine de documents qui permettent aussi de jalonner le parcours des témoins et qui viennent illustrer le propos.
Le dernier épisode, le cinquième de Rennes, j'écoute les voix du service public. Il s'est déroulé en compagnie de Bernadette Kessler. On écoute une pastille tirée donc de cet épisode.
Comment est-ce que la donnée est devenue vraiment le centre d'attention pour l'ensemble de l'administration aujourd'hui? C'est-à-dire que si on veut vraiment faire des services pertinents, si on veut soutenir l'économie, si on veut faire travailler sur la question du climat, des économies d'énergie, sur la participation des citoyens. Donc il y a des enjeux démocratiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux environnementaux. Si on veut faire des services qui traitent toutes ces questions-là et qu'on ne peut pas séparer les unes des autres complètement, il faut des données. Et la donnée, comme élément de base, la brique de base, en fait, de l'ensemble de l'activité de l'administration, c'est la data. Alors, elle peut être open, dans le cadre de la loi sur les données qui sont les données publiques, mais elle peut être aussi négociée avec des entreprises qui produisent de la donnée, des données pertinentes pour améliorer ces services. Je pense au domaine de l'énergie, je pense au domaine de l'automobile, je pense à des domaines comme ça.
La data, donc, au cœur du travail de Bernadette Kessler, qu'on vient d'entendre dans le cinquième épisode du podcast Rennes, j'écoute les voix du service public. Donc, un épisode dans lequel on découvre le parcours de cette journaliste qui nous emmène des radios pirates jusqu'à ce chantier de l'open data. Elle a été responsable du service innovation numérique à la ville de Rennes et à Rennes Métropole.
C'est un parcours qui est assez intéressant, et celui-là en particulier, je crois qu'on passe quand même pas mal de temps à parler de l'avant rentrée dans la collectivité, parce qu'effectivement elle a été journaliste, elle a beaucoup travaillé sur des médias émergents, innovants, la radio, elle était présente, elle faisait partie de l'équipe au lancement de TVRN, c'est elle qui avait interviewé le président Mitterrand qui était venu inaugurer le réseau câblé à l'époque. Et du coup, en fait, cette avant-collectivité a du sens par rapport à ce qu'elle fait après. Parce qu'après, elle se lance dans l'aventure de l'Internet un peu émergent. Elle travaille sur les premiers sites des collectivités. Et effectivement, en fin de carrière, elle porte tous les projets qui sont liés à la data. Donc l'ouverture des données publiques, c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi dans les années 2010. Et c'est quelque chose sur laquelle la collectivité Rennes Métropole est assez innovante, pionnière, on va dire. Et du coup, elle est particulièrement actrice des projets qui sont menés par la collectivité sur la question de la data. Ouais.
Cet épisode, il montre l'arrivée de nouveaux dossiers pour les collectivités locales avec ce sujet du numérique, et puis d'autres dossiers dont l'importance se confirme. Je repense à Françoise Tirant sur la question des droits des femmes. Est-ce que vous, il y a un des portraits là qu'on n'a pas évoqué sur lequel vous souhaitiez revenir et qui montre aussi l'évolution des politiques locales à travers ces petites mains qui s'activent en coulisses dans les collectivités?
Alors sur l'évolution des politiques locales, il y en a peut-être un qui mérite d'être évoqué, même s'ils méritent tous d'être évoqués techniquement, mais il y a un podcast qui concerne Françoise Cotreau, qui a été longtemps directrice de l'habitat social au CCAS, donc qui a porté et mis en œuvre la politique d'habitat social de la collectivité. Il y a un modèle rennais de l'habitat social qui existe, qui est reconnu, et en fait elle a particulièrement participé à le mettre en œuvre et à le façonner, ce modèle-là. Donc là-dessus, on est sur quelque chose qui est assez porteur. Après, techniquement, voilà, tous les podcasts ont leur intérêt. Noël Philippe nous parle du métro, donc évidemment, ça a été Monsieur Métro à la Métropole, donc il nous parle de l'aventure de la ligne A puis de la ligne B. Et Jean-Paul Sillard, il nous parle d'un métier qui est assez méconnu, qui est pas très commun dans les collectivités. Il est zootechnicien, donc il était en charge du cheptel à l'écomusée. Donc c'est le gardien d'un patrimoine vivant, en fait. Il s'occupait des animaux de races locales, dont certaines étaient en voie d'extinction. Il a participé à leur sauvegarde. Donc là, pour le coup, c'est un métier un peu différent, mais c'est une mission de service public à laquelle on ne pense pas non plus forcément. Donc du coup, j'ai répondu un peu tous les podcasts. Parce que moi, je les trouve tous intéressants.
Les auditeurs pourront aller les découvrir dans le détail. Pour les écouter, ça se passe certes sur le site des archives de la ville de Rennes, archives.rennes.fr. On vous retrouve aussi sur d'autres plateformes de podcasts.
Ouais, les podcasts, ils sont mis en ligne sur la plateforme Ocha, effectivement. On peut avoir accès aux fichiers sonores et sur notre site internet. En complément, on a donc les galeries de documents d'archives. Et en plus de ça, on a des versions accessibles, je le dis, hein, parce qu'on a préparé des versions qui étaient accessibles pour des publics porteurs de déficience auditive. Donc il y a des transcriptions intégrales des podcasts qui sont disponibles et aussi des résumés de ces podcasts qui sont parsemés de citations, qui sont des documents en fait qui sont écrits, donc qui sont cette fois-ci à lire. Voilà.
Et de nouveaux épisodes vont arriver à l'automne, c'est ça ?
Le prochain épisode, effectivement, il est prévu à la rentrée prochaine, donc septembre-octobre, on ne sait pas trop quand exactement. Et bah, en fait, il sera consacré à un monsieur qui s'appelle Yves Caro, qui a été technicien puis ingénieur hydraulique à la ville de Rennes puis à Rennes Métropole. Donc il sera de question de l'eau dans la ville, des écoulements, du traitement, donc station d'épuration, risque d'inondation. Donc on est sur un sujet qui est aussi tout à fait d'actualité en fait. Voilà, comment la collectivité s'empare de ces thématiques-là qui sont très d'actualité.
Adrien Leroux, je vous représente, vous êtes chargé de médiation aux archives municipales de Rennes. On vous a donc reçu pour parler de ce podcast lancé par les archives en 2022. Rennes, j'écoute les voix du service public. C'est donc à retrouver en ligne. J'en profite pour annoncer le prochain jeudi des archives. Donc ça se passe jeudi 30 mai à partir de 18h. Une conférence en compagnie de Philippe Tétard. Il est maître de conférence à l'Université du Mans et chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le TEMOS. Et il explorera cette fois le thème « Popularisation et popularité du sport à la belle époque et dans l'entre-deux-guerres ». Un rendez-vous qui est gratuit. Plus d'infos en ligne sur archives.rennes.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Why in the night sky are the lights hung? Why is the earth moving round the sun? Floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Oh, 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 oh. Why is life made only for to end? Why do I do all this waiting then? Why this frightened part of me that's fated to pretend? Why is life made only for to end? Oh, oh, oh. City only for a while, here to face the fortune and the bile. I heard you on the radio, I couldn't help but smile. In the city only for a while, oh. Lights hung. Why is the earth moving round the sun? floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Oh, 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 oh.
Vous venez d'entendre les Fleet Foxes avec leur morceau Blue Spotted Tail sur Canal B. On a besoin de cette douceur face au gris qui ne veut pas partir et c'était donc mon choix musical. Un morceau à retrouver sur l'album Helpless Blues qui est sorti en 2011 par ce groupe de folk américain que sont les Fleet Foxes. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit avec un reportage. Et le reportage que vous allez entendre, il a été réalisé par Ambre, étudiante en stage venue de la SCOL. Elle s'est rendue en début de semaine dans une école du quartier Clonay. Des jeunes réfugiés du dispositif CAP+, se sont retrouvés aux côtés d'écoliers pour chanter des berceuses. C'est une des propositions pour les accompagner dans leur insertion, au-delà de leur formation dans les métiers du bâtiment. Ce CAP+, il s'est déployé depuis 2017 sur les 4 départements bretons. Et on peut trouver plus d'infos sur le site bâtiment. CFA.bzh. Enfin, avant d'écouter le reportage, on peut annoncer une restitution publique sous forme de lecture théâtrale autour d'un livret sur la santé. Ambre va vous en parler. Ça et puis une exposition, c'est à vivre le 18 juin à partir de 18h au bâtiment CFA du côté de Montgermont.
Pèlerin, je travaille au CFA de Montgermont depuis 27 ans et depuis 7 ans je m'occupe d'un dispositif donc, qui s'appelle CAP+, et qui est dédié au public réfugié.
Le CAP+, c'est un certificat d'aptitude professionnelle comme il en existe beaucoup d'autres, sauf qu'il a quand même quelques petites spécificités.
Voilà, quelques plus on va dire. Donc c'est un dispositif qui dure 3 ans au lieu de 2. Et sur la première année, il y a un accompagnement global en fait sur ce public-là. L'idée, c'est que les jeunes viennent au CFA avec vraiment l'envie déjà de venir à l'école et surtout d'être disponibles dans leur tête pour apprendre le français et pour apprendre un métier. Donc tous les freins périphériques, on va dire, on essaye de les gérer au mieux. Donc ça peut être justement l'accès à la santé, l'accès au logement, enfin, tout ce qui peut les empêcher en fait d'être pleinement intégrés dans leur formation.
Et donc ce cursus, vous l'avez dit, il s'adresse à de jeunes réfugiés, donc avec un programme étalé sur 3 ans. Comment est née cette initiative? C'est une initiative bretonne en plus, il me semble.
Alors c'est une initiative bretonne, ouais, unique pour le moment, pas trop déployée ailleurs, c'est bien dommage. Elle est née d'une rencontre en fait. Moi ça fait, donc avant de m'occuper du dispositif, j'étais documentaliste au CFA et j'accueillais souvent en fait les jeunes en difficulté, dont notamment pas mal de jeunes étrangers. Et un jour, donc j'ai participé à l'écriture d'un livre sur les apprentis du CFA. On a fait des séries de portraits. Et parmi ces jeunes, il y avait un Afghan. Et donc, du coup, l'idée, c'était qu'il accepte de témoigner sur le livre. Et il m'a dit, d'accord, mais en échange, tu me donnes des cours de français, parce que c'est trop dur. Et c'est là, au fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui étaient dans la même situation et qu'on n'avait jamais rien fait. Donc avec l'aide de l'adjoint de direction de l'époque, on est parti du principe que pour apprendre le français, il fallait qu'on modifie l'alternance. Et au lieu de faire venir les jeunes une semaine sur 3, on a décidé de les faire venir toutes les semaines et de couper la semaine en 2. Et voilà, ça a démarré comme ça.
Et cette année, pour cette 7e promotion du CAP+, vous avez imaginé tout un projet d'échange autour de la santé mentale et du sommeil. Cet échange, notamment, il prend forme ici à Rennes, à l'école Saint-Clément. Donc ici, les 13 apprentis du CFA de Montgermont apprennent aux élèves de CM1 des berceuses dans leur langue natale. Alors comment il est né ce partenariat?
Alors ce partenariat, il est né d'une rencontre amicale avec donc la maîtresse de l'école Saint-Clément. Ça fait plusieurs années qu'on a envie de travailler ensemble et on cherchait comment. Et de mon côté, moi, je m'étais rendu compte que ces jeunes-là, donc moi j'ai beaucoup de jeunes majeurs isolés, c'est-à-dire qu'ils sont venus sans famille. Et ça m'est arrivé dans des rencontres diverses ou en les accueillant en dehors du CFA, que l'approche avec l'enfant était assez simple finalement et plutôt recherchée. Et c'est à chaque fois, c'était ça, ça me rappelle mes frères, mes sœurs, parce que c'est souvent les aînés qui partent. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour relier ces deux publics qu'on ne relie jamais d'ordinaire en fait. Donc voilà, ça a cheminé doucement. Au programme de CM1, il y a la santé et le sommeil. Et nous, on avait envie de parler du sommeil, donc on s'est dit qu'il faut qu'on trouve un lien. Et ça a été les berceuses en langue maternelle.
Oui, puis j'imagine que le dialogue doit quand même être plus facile et plus spontané avec des enfants. Il n'y a pas ces barrières de préjugés aussi.
Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, notamment dans les moments en fait, où on n'avait rien demandé de spécifique, il n'y avait pas d'objectif, ils étaient en train, dans la cour, d'échanger, que les enfants sont très spontanés, donc posent des questions c'était par exemple, tu viens d'où, pourquoi t'es parti tout seul, etc.
Sans filtre.
Voilà, et c'est des questions que nous on pose pas, enfin moi je les pose pas tout de suite en tout cas, parce que c'est vraiment intrusif. Et après, quand je voyais le jeune à répondre de manière très, très naturelle, je me suis dit, waouh, là. Donc je me suis dit, peut-être que ça aussi, ça leur fait du bien, sans attendre quoi que ce soit de plus, mais de libérer cette parole. Parce qu'ils sont vraiment dans le manque de confiance, en fait. On les a tellement questionnés, pourquoi t'es là, etc., qu'ils ont toujours... Un jour, moi, on m'a dit, mais t'es de la police ou quoi ? J'ai dit, bah non.
Et c'est vrai que quand ils arrivent sur le territoire, on leur pose tout un tas de questions.
Toujours les mêmes questions, et quelquefois, c'est vraiment... Enfin, très violent pour eux, parce qu'ils n'ont pas cette habitude, les codes ne sont pas les mêmes, et que, bah, par exemple, dans la culture afghane, il y a vraiment un culte du secret, c'est-à-dire qu'ils ne parlent jamais entre eux de leurs problèmes, parce qu'ils considèrent qu'ils ont tous les mêmes, donc ce n'est pas des problèmes à partager. Ils ne parlent jamais, par exemple, de leur sœur, c'est tabou, enfin, tout ce qui touche à la femme, on ne doit pas en parler. Donc, ils ne savent rien des autres, en fait. Et là, de répondre comme ça à des enfants, bah oui, moi j'ai 3 sœurs, 15... C'est une façon, pour moi, en tout cas, d'apprendre le français... de manière naturelle, en fait. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, Erissane qui m'a dit, mais Cécile, c'est trop facile d'apprendre le français avec les enfants. Donc ils sont vraiment pas dans le jugement, et ça c'est rassurant, en fait, c'est ça. C'est se sentir en sécurité quand on s'exprime, ne pas avoir peur de faire des fautes, accepter d'être repris par les enfants quand ils font des erreurs, et ça c'est vraiment formidable, parce que nous, des fois, enfin moi, quand dans mes cours, je reprends pas systématiquement, je me dis, à partir du moment où j'ai compris, c'est que c'est bon, et sinon, on les arrêterait tout le temps. Et là, j'ai trouvé que ils progressent d'une autre façon, sans sentir un regard se poser sur eux ou sur la manière dont ils parlent. Et ça, c'est vraiment bien.
Oui, c'est peut-être plus simple d'être pris par des enfants.
Je pense, hein, parce que c'est ça, cette absence totale de jugement et de sincérité. En fait, ils sont pas là pour faire du mal, hein, ils sont là pour... Parce que c'est naturel de dire « Ah, t'as oublié de mettre la négation, ou t'as oublié... » Et je pense aussi à l'inverse, mais ces enfants aussi, c'est une sacrée ouverture d'esprit. C'est quelque chose... C'est un projet dont ils sont vraiment, je pense, contents de faire. Bon, ça communique beaucoup à la maison aussi, et on a aussi, par ce biais, réussi à aller plus loin, et parce que l'objectif, c'était aussi d'accéder aux soins. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à trouver des médecins traitants pour eux, j'ai du mal à trouver des dentistes. Donc, on a épluché un peu le listing des parents de l'école, et on a mis en lien certains jeunes avec des médecins ou des dentistes. Et ça, c'est une belle victoire pour nous, en tout cas.
Oui, puis j'imagine aussi que pour les enfants, ça doit les ouvrir à d'autres cultures potentiellement, parce qu'il y a plusieurs nationalités qui sont présentes.
C'est ça. Donc l'école de Clonay est déjà un petit peu cosmopolite, hein, mais ça a été... Oui, il y a eu vraiment des échanges assez forts, parce qu'il y a une petite fille ici qui est d'origine... Son père est afghan, donc elle a rencontré des Afghans. Alors elle ne parle pas la langue, elle la comprend un peu, mais le fait d'apprendre une berceuse qui vient du pays de son père, enfin il y a quelque chose de... Oui, il y a une certaine fierté, on s'est servi aussi du papa pour nous aider à traduire, enfin voilà. Pour moi, c'est vraiment montrer qu'on a tous quelque chose à partager aux autres, et puis ça fait grandir, je pense. On a d'abord fait une rencontre un peu informelle. On a fait venir les enfants au CFA. Et là, c'était aussi très intéressant de voir ces enfants de 10 ans se balader dans un établissement professionnel, de découvrir les métiers. Donc, je pense qu'ils n'en avaient même pas idée sur certains, de s'essayer à la couverture ou autre. Et donc, l'idée, c'était que les apprentis du CFA présentent leur métier, présentent le lieu où ils étudient. Et puis que la relation se fasse de manière... spontané. On n'a pas exigé autre chose. On s'est mis beaucoup en retrait d'hommes et moi parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être là, en fait, sur les relations qui se sont nouées après.
Oui, plus là pour encadrer, finalement.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide, la rencontre. La première fois qu'on est venu à l'école primaire, bon, c'était vraiment émouvant. Parce que du coup, par exemple, Mamadou, ça fait au moins 6 ans qu'il est en France, 5-6 ans, et il m'a dit « Jamais, jamais, Cécile, on m'a emmené dans une école. Je ne savais pas comment ça marchait à l'école ici en France. » Et il avait les larmes aux yeux. Et quand les enfants ont chanté en plus la berceuse dans sa langue, là, c'était comme une sorte de... En fait, je pense qu'on les légitime, en fait. On leur dit, ça y est, votre place, elle est là. Vous voyez, les gens, ils rendent compte de ce que vous êtes et que vous avez toute votre place et que ça nous intéresse qui vous êtes.
Je m'appelle Mamadou Yagouba. Et j'ai 26 ans, je viens de Guinée-Conakry. J'ai arrivé en France en 2018. Aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'on vient ici. Mais ça passe bien parce que c'est la première fois, depuis que j'ai arrivé en France, la première fois que j'ai allé à l'école des enfants comme ça.
C'est la toute première découverte de l'école.
Oui, c'est la toute première découverte de l'école comme ça. Oui.
Et avec les enfants, comment ça se passe?
Oui, avec les enfants, c'est très bien parce que pendant nous, on vient ici, on joue avec les enfants. Si par mon germain, on joue avec les enfants. Et parce que moi, j'aime beaucoup jouer avec les enfants. Parce que depuis longtemps, depuis que j'ai quitté mon pays, je n'ai pas fréquenté avec les enfants, j'ai fréquenté seulement avec l'adulte. J'ai commencé à fréquenter avec les enfants ici, comme ça. J'aime ça très bien. Oui.
Ils vous rappellent peut-être des petits frères ou des petites sœurs?
Ah oui, parce que dans mon pays, j'ai l'habitude de jouer avec les enfants parce que ça, depuis longtemps, je n'ai pas joué avec les enfants. J'ai fait ici presque 4 ans, je n'ai pas joué avec les enfants. Le premier jour où j'ai arrivé ici, je suis à l'aise.
C'est plus facile d'apprendre avec des enfants qu'avec des adultes?
Oui, il y a certains vocabulaires pour avec les enfants, c'est plus facile avec les adultes. Parce que les enfants, ils parlent vite, mais parce que la voix des enfants, c'est très clair. Par rapport à ça, c'est plus facile d'apprendre, oui.
Et vous leur apprenez des chansons?
Oui, on apprenait les chansons, on a chanté le berceuse avec les enfants. Le berceuse dans mon langue maternelle, la pelle. Et on a chanté le berceuse d'Afghan, Dari. Et on a chanté le berceuse d'Albanais. On a chanté le berceuse de Soudanais. Il y a différents. On a chanté le berceuse de Somaliens. Le berceuse, on a amené dans nos langues, mais les enfants apprennent ça vite. S'ils sentent, c'est comme ils parlent nos langues maternelles. C'est par rapport à ça, avec les enfants, c'est bien.
Moi, je les vois toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller les retrouver, aller travailler avec eux, parce qu'ils sont toujours de bonne humeur, ils ont toujours le sourire, alors qu'ils ont des vies hyper compliquées. Et ils font le maximum, en fait, ils donnent le maximum d'eux-mêmes pour faire plaisir. Et donc, pour un prof, c'est du bonheur, en fait. Et juste ce que je peux dire, c'est qu'au CFA, c'est un public que tout le monde voudrait avoir en cours, parce qu'il n'y a aucun problème de discipline et que... Ils ont envie d'être là, en fait. S'ils viennent chaque semaine avec le plaisir de venir à l'école, pour des jeunes qui sont soit pas du tout allés à l'école, soit très peu, eh ben, je me dis, c'est gagné, quoi. Et puis voilà, ils ont leur place, en fait. Ce que je veux, c'est ça. C'est qu'au bout d'un an, ils se disent, j'ai pris confiance en moi.
Je suis légitime.
Et voilà, je suis légitime dans mon métier. là où je suis. Et je vais le prouver.
On sent quand même beaucoup d'émotion.
Moi, j'adore. Enfin, le projet avec les enfants, c'est super. Ça faisait vraiment plusieurs années que je pensais à ça. Je me dis, comment est-ce que je pourrais... Parce que je l'avais vu. En fait, je les avais mis en lien avec mes nièces ou des choses comme ça. Et je voyais toujours, demandais toujours des nouvelles de la plus petite, quoi. Comment elle va, comment il... Enfin, ouais, il s'attachait. Et là, c'est vrai que c'est inattendu. On avait un peu peur aussi. Peut-être des réflexions des parents aussi. C'était un projet qui était, je pense, plus difficile à présenter. Parce que ce sont des jeunes adultes qu'on met en lien avec des enfants, donc on peut imaginer plein de choses. En plus, ils ne parlent pas bien français. Donc... Et en fait, ça a été plutôt bien accueilli. Et les retours des enfants, hein, quand ils vont chez eux, apparemment, sont tellement bons que les parents ont hâte de venir voir et de les rencontrer enfin. Donc des fois, il faut franchir en fait toutes ces idées, les idées reçues qu'on peut avoir, ou les craintes qu'on peut avoir, et se dire, on essaye. Et puis de toute façon, on est là pour encadrer, et si ça se passe pas bien, on arrêtera. Mais là, l'idée, c'est de continuer l'année prochaine.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors, à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors, à la vie, à la mort. 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 À la vie, à la mort.
Shut up. constaté la fin du corail. Polyamour, polymétier, t'as dû péter pour seul oracle. Scrolling halluciné, passe pas mes pères sur les atolls.
Cyril, avec le titre qui arrive à point nommé, La Grisaille. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à la radio, et que vous pouvez retrouver sur un album, Le Futur. Ça marche pas, voilà, ça s'est dit. C'est sorti le 24 avril dernier sur le label Born Bad Records. 11 titres qui forment le troisième album pour ce duo suisse qu'on avait reçu, je m'en rappelle, à leur lancement sur un plateau des transmusicales il y a de ça quelques années. Vous venez donc de les entendre dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui vous tend son micro si vous avez des actions ou événements à annoncer aux auditeurs, qu'il s'agisse de lutte environnementale, de vie étudiante ou rurale, tant que ça s'inscrit en fait dans le champ de l'information locale, vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite je reprends contact avec vous pour vous inviter en studio pour une interview. On peut aussi imaginer un reportage sur le terrain ou pourquoi pas en parler dans certains cas sous forme de recommandation du jour. Et c'est l'heure. Alors, la recommandation du jour, c'est quoi? C'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire, car je vous en sais friand. Aujourd'hui, on annonce une rencontre littéraire qui a été imaginée par Front de Mer, ce syndicat de maires en quartier populaire qui a notamment une antenne ici à Rennes. Et Front de Mer attend donc le public jeudi 30 mai à partir de 18h dans les locaux du Laboratoire Artistique Populaire. On est dans le quartier Maurepas à Rennes. Face au public, il y aura Fatima Wassak, une militante et écrivaine, qui présentera son nouveau roman intitulé « Rue du Passage », un livre raconté à hauteur de petite fille qui offre une perspective unique sur l'histoire de l'immigration et qui met en lumière les vies des femmes et des hommes issus des quartiers populaires. C'est un événement qui fait partie de la programmation des Dingueries de la Terre, une programmation dont on a déjà parlé sur cette antenne, portée collectivement par plusieurs associations et structures du quartier Maurepas. Et sur cette rencontre, enfin, on retrouvera la librairie coopérative de l'Astrolabe avec une garde d'enfants qui sera possible sur inscription. Voilà quelque chose d'intelligent. Pour plus d'informations, il y a un événement à retrouver sur Facebook. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.